Et puis en studio, devant moi, François Larochelle, ancien diplomate canadien. Bonjour, Monsieur Larochelle.
Bonjour, Madame Denis.
Le 5 novembre, une majorité d'Américains ont voté pour Donald Trump aux élections présidentielles, alors que les sondages le mettaient coude à coude avec Kamala Harris, sa rivale. Il a finalement remporté une victoire, incluant dans tous les États clés. Tout un retournement de situation alors qu'on croyait la carrière politique de Trump terminée après sa défaite de 2020 suite à un mandat présidentiel surréaliste. Ça, c'est votre qualificatif à vous.
C'était surréaliste.
Ouais.
En fait, l'élection,
c'est
les résultats sont assez aberrants. Les Américains ont élu un fraudeur trouvé coupable, un escroc qui a fait 6 faillites, un homme qui a tenté de renverser les élections de 2020, un menteur vulgaire et égocentrique et un agresseur sexuel reconnu. Et le portrait est incomplet. Il a remporté le vote populaire avec 75 millions de votes, 3 de plus que Kamala Harris. Cette dernière a recueilli 10 millions de voix de moins que Joe Biden en 2020. Il semblerait que beaucoup de démocrates ne soient pas allés voter. Trump a prévalu dans son électorat traditionnel, les électeurs blancs, toutes catégories confondues, les hommes, les 45 et 60 à 64 ans et les non-diplômés. Harris l'a emporté chez les femmes, les jeunes de 18 à 29 ans, les Noirs, les Asiatiques et les Hispaniques, mais avec des scores moindres que ceux de Biden. C'est à la marge que Donald Trump a donc effectué une percée. Il est allé chercher davantage de votes chez les 18-29 ans, les Latinos et même les Afro-Américains. Trump a simplement ajouté ses voix aux 40 % du noyau dur de ses supporters MAGA, qui l'appuyaient déjà, peu importe ses outrances.
MAGA, Make America,
make America Great Again.
Et comment on peut expliquer ce résultat?
Bon, Trump a gagné parce que son message s'est concentré sur les questions qui préoccupaient le plus le peuple américain, le coût de la vie et l'immigration. Avec seulement 28 % des électeurs qui estimaient que l'Amérique allait dans la bonne direction et un taux de satisfaction de seulement 41 % à l'égard du travail de Joe Biden, Kamala Harris a traîné ce dernier comme un boulet. Mm-hmm. Trump a aussi beaucoup profité de ses appuis dans la communauté des évangéliques et autres conservateurs religieux qui le considèrent comme un envoyé de Dieu pour sauver l'Amérique de la décadence morale. Il a été aidé par les réseaux sociaux et des médias conservateurs comme Fox News, des influenceurs de la droite radicale et complotistes qui ont répercuté ses réalités alternatives et mensonges. Et cela inclut bien sûr le réseau X d'Elon Musk, qui est devenue la nouvelle éminence grise de Trump.
Ben oui.
D'autre part, si Joe Biden avait annoncé son départ plus tôt, le Parti démocrate aurait peut-être pu lancer un processus ouvert et trouver un ou une candidate pouvant s'en distancer. Et on peut se poser la question, combien d'électeurs ont voté pour Trump parce qu'ils ne pouvaient pas se résoudre à voter pour une femme noire? Le racisme et la misogynie sont toujours bien présentes chez nos voisins du Sud. Selon une enquête d'Associated Press, 53 % des femmes blanches ont voté pour Donald Trump.
Et à quoi devons-nous nous attendre au cours des 4 prochaines années? Là? Je sais que bon, on parle tout le temps de boule de cristal, vous ne l'avez pas, là, mais vous êtes quand même capable d'analyse.
Je pense qu'on va assister à un chaos plus ou moins contrôlé à la fois aux États-Unis et dans le monde. Cette fois, Trump et son entourage sont mieux préparés qu'en 2016 et ont un plan à exécuter. Leur objectif est de tenir la promesse d'une rupture radicale et placer des fidèles à la tête des ministères, du gouvernement et des agences stratégiques. Ce processus est déjà commencé d'ailleurs. Sur l'économie, il adoptera une politique protectionniste. Il songe à taxer de 10 % au moins toutes les importations américaines. Celle de la Chine ferait l'objet d'une taxe de 60 %. Il devrait aussi réduire les impôts. Cela bénéficiera évidemment surtout aux riches. Sur l'immigration, il s'est engagé à mener, j'ouvre les guillemets, la plus grande opération d'expulsion de l'histoire des États-Unis, fermez les guillemets, mais il reste à voir si cela est effectivement réalisable. Il menace ce qu'il appelle l'ennemi de l'intérieur. Il vise alors les démocrates, la gauche radicale, qui serait selon lui à l'origine de ses ennemis judiciaires. Au plan international, on peut s'attendre à un appui sans faille à son ami Netanyahou en Israël, confirmé d'ailleurs par les premières nominations de Trump radicalement pro-israélienne. Cela est de mauvais augure pour les Palestiniens. Trump n'a cessé de vanter ses bonnes relations avec Vladimir Poutine et il a déclaré qu'il parviendrait à mettre un terme à la guerre en Ukraine en 24 heures. On peut imaginer que ça risque de ne pas se faire à l'avantage des Ukrainiens. Trump ne sera sûrement pas un grand défenseur de l'OTAN ni des Nations unies. Sur l'environnement, on s'attend à ce qu'il retire à nouveau son pays de l'accord de Paris et annule les directives contraignantes qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis. Il compte aussi lever les restrictions sur la production de pétrole, de charbon et de gaz.
Ça regarde mal, quoi. Oui. François La Rochelle, ce sera quoi les conséquences? Quelles seront les conséquences pour le Canada?
Bon, elles seront sûrement importantes parce que l'imposition de tarifs douaniers aura une incidence marquée sur le Canada. Des économistes parlent d'un impact négatif de possiblement 45 milliards de dollars. Après tout, le Canada est le plus important partenaire commercial des États-Unis. Les baisses d'impôts aux États-Unis pour les entreprises obligeront le Canada à revoir sa fiscalité, alors que plusieurs entreprises pourraient être tentées d'investir aux États-Unis plutôt qu'au Canada. Et l'autre aspect important est évidemment l'arrivée possible d'immigrants illégaux fuyant les rafles américaines, si elles se confirment. Le gouvernement canadien dit s'y préparer. Il sera aussi intéressant de voir l'impact que cette élection aura sur les nôtres. Aidera-t-elle le chef conservateur Poilievre ou Justin Trudeau s'il reste à la tête du Parti libéral? Et on verra ça dans les prochains mois.
Donc, les prochaines années risquent d'être pas mal houleuses, c'est le moins qu'on puisse dire, pour les Américains, mais pas seulement.
Oui, d'autant plus que les Républicains, qui sont à la botte de Trump, contrôleront le Sénat et on vient d'apprendre qu'il va aussi contrôler la Chambre des représentants. En outre, la majorité des juges à la Cour suprême, il ne faut pas l'oublier, soutiennent sa vision et a récemment rendu une décision qui d'ailleurs le rend pratiquement au-dessus des lois. La voie sur laquelle il va engager son pays diverge fondamentalement du chemin dessiné par les États-Unis depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est probablement la fin d'un cycle américain, celui d'une superpuissance ouverte et engagée dans le monde. Donald Trump voit le monde à travers d'abord le prisme de ses propres intérêts et puis ceux nationaux des Américains. Un monde de rapports de force et de guerre commerciale. Il aime aussi beaucoup les autocrates comme en Corée du Nord, ou en Russie. Les Américains ont cette fois-ci choisi Trump en toute connaissance de cause, ainsi que les dirigeants du monde des affaires et du high-tech qui se sont ralliés à lui pour s'enrichir davantage. Les dommages que cette ploutocratie va causer à l'Amérique, mais aussi à ses alliés, sont difficilement prévisibles à ce stade, mais probablement sérieux et pérennes.
Ploutocratie, est-ce que c'est un lien avec Ploux?
Non, en fait, c'est un mot qu'on retrouve de plus en plus dans les articles là, au sujet de l'élection de Trump. Et j'ai moi-même fouillé pour en connaître l'origine. Alors, j'ai appris que ça vient du mot grec « ploutos », qui est le dieu de la richesse, et du mot « kratos », pouvoir. Alors, on définit ploutocratie comme un système de gouvernance ou de gouvernement où la richesse constitue la base principale du pouvoir politique. Et c'est ce qu'on va voir là, dans les prochaines années. Uh-huh. Évidemment, reste à voir si la moitié des Américains qui n'ont pas voté Trump sauront organiser une résistance, ainsi que certaines démocraties comme la nôtre. En tous les cas, pour conclure, les quatre prochaines années, il faudra se préparer à attacher nos tuques parce qu'il va vanter fort.
On est prévenu, on va attacher nos tuques.
Voilà.
Je ne sais pas si ça va décider quelque chose. Merci beaucoup, François La Rochelle. À la prochaine.
Au revoir.